carnet de campagne. Bonjour, nouvelle étape en Seine-Saint-Denis, dont le bilan récemment diffusé par nos confrères de l'information soulignait d'étranges contradictions, comme la forte implantation d'entreprises, mais le taux de chômage le plus élevé d'Île-de-France. Pendant ce temps, le département réfléchit comme 12 autres collectivités, à savoir la Gironde, l'Ardèche, l'Ariège, la Nièvre, le Lot-et-Garonne, pour en citer quelques-unes, à la mise en place d'un principe débattu lors de la dernière campagne de l'élection présidentielle, mais vite enterré, à savoir le revenu de base universel. Donc 13 départements ont engagé conjointement en novembre dernier une consultation de leurs habitants sur la faisabilité de ce revenu de base. Les résultats de ces consultations seront présentés lors d'un grand colloque le 7 juin prochain à Bordeaux. Vous pouvez toujours participer à cette enquête, vous avez trouvé un lien à nos pages d'émission. Nos interlocuteurs du jour sont Patrick Norimbert, cofondateur de la régie de quartier du Blanc-Ménil, entreprise et chantier d'insertion depuis son ouverture en octobre 2000, et Lisa Valverde pour La Fontaine aux Images, une compagnie installée à Clichy-sous-Bois est devenue en l'espace de quelques années un haut lieu des pratiques artistiques et des initiatives citoyennes. La compagnie organise d'ailleurs les 22-23 juin prochains son festival de théâtre amateur, un événement quasi incontournable dans le département.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Patrick Norimbert, bonjour.
Bonjour.
Patrick, vous n'avez plus... Enfin, je vais dire plutôt, le développement social, la démocratie locale n'ont plus de secret pour vous.
C'est peut-être beaucoup dire, mais oui, j'essaye de donner un sens à tout ça, effectivement. Développement local et démocratie, pour moi, c'est d'abord et avant tout la relation, la bienveillance à l'égard des uns et des autres. Et dans les quartiers populaires, dans lesquels j'ai pas mal... exercer, eh bien, effectivement, c'est des choses très, très importantes.
Ouais. Le premier souci, c'est de donner le pouvoir d'agir aux habitants.
Voilà, de retrouver toutes ses capacités pour être vraiment actif et responsable dans son quartier, dans sa ville, mais au-delà de ça, dans sa vie, tout simplement. Et avec notre association, notre régie de quartier, on essaye de contribuer à cela, parce qu'on a des habitants... qui nous arrive quelquefois dans des situations assez dramatiques. Mmh. Et l'idée, c'est que le parcours qu'ils font dans notre association, en retrouvant le chemin de l'emploi, leur permette de retrouver le goût de la vie, le goût d'agir avec les autres, tout simplement une estime d'eux-mêmes.
Ouais. Alors, la régie est née dans le quartier des Tilleuls, au Blanc-Ménil, suite à un événement dramatique en 99.
Exactement, oui, oui. Il y a eu la mort d'un jeune, et puis des troubles importants, et puis un endroit où il faisait pas si bien vivre, mal entretenu, dégradé. Et nous avions créé à l'époque ce qu'on appelait des conseils de ville et de voisinage, et les habitants présents étaient vraiment très en colère et puis choqués par ce qui venait de se passer. Et l'idée était qu'est-ce qu'on peut faire par nous-mêmes pour améliorer le quotidien et faire que les relations entre les habitants s'améliorent. Mmh. Construire de la bienveillance, de l'entraide, de la solidarité.
Ouais. Vous auriez pu être bloqué par la question sécuritaire, mais souvent la solution c'est de dire les habitants prennent en main cette sécurité-là et sont complémentaires de la police, par exemple, dans la surveillance des quartiers et dans la mise en sécurité des lieux de vie.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le premier groupe de travail qui est issu de ce conseil de ville de voisinage un peu particulier, c'était vie quotidienne et sécurité. Mmh. Comment on peut améliorer tout ça, effectivement? Et puis, chemin faisant, on s'est rendu compte que on pouvait être acteur à côté de ces institutions, à côté de la police, à côté d'autres, des enseignants, etc. Que la meilleure façon qu'on avait d'agir, c'était de faire des choses ensemble pour créer du lien, pour créer de la solidarité. Et ça pouvait être le chemin pour plus de tranquillité finalement.
Et alors, la régie de quartier est un élément de l'insertion par l'activité économique.
Oui, on est une entreprise d'insertion aussi, une entreprise d'économie sociale également. Et donc, nous travaillons avec toute une série d'acteurs sur le territoire. Ça peut être Pôle emploi, ça peut être le PLI, le plan local d'insertion et de l'emploi. On est vraiment partenaire de tous ces acteurs locaux. Et d'ailleurs, on n'y arriverait pas si on n'était pas sur cette démarche de partenariat avec un S. Où il s'agit d'avoir un véritable projet commun pour faire en sorte que les habitants retrouvent le chemin de l'emploi, le chemin de l'insertion.
Oui. Vous avez édité un petit livret, Chemin parcouru de 11 salariés en insertion, avec des profils divers, des personnes nées au Blanc-Mesnil, d'autres venues s'installer il y a quelques années là, qui ont connu pour certains une enfance heureuse, mais ensuite des déplacements, des pertes d'emploi. Et ces personnes aujourd'hui, qui on les sent évidemment par leur témoignage épanoui, reconnaissance sociale et puis confiance en soi, restent combien de temps au sein de la régie ?
Alors, la loi ne nous permet pas de prolonger les parcours au-delà de 2 ans. Nous avons ce temps-là pour à la fois remettre les personnes vers le chemin de l'emploi et aussi pour travailler toute une série de questions sociales, parce qu'on a des salariés qui nous arrivent avec quelquefois des situations familiales très compliquées, des problèmes d'addiction diverses. Et voilà, une autre entreprise, entre guillemets, ordinaire, ce ne serait pas son travail que d'essayer d'accompagner ces personnes au-delà du métier et du service qu'ils rendent dans l'entreprise.
Mmh. La régie de quartier de Blanc-Mesnil, évidemment, fait partie du réseau national des régies de quartier, hein, qui œuvre depuis 30 ans sur l'ensemble du territoire au mieux vivre et à l'insertion des personnes des quartiers parfois montrées du doigt, défavorisées, avec des personnes bousculées. Et là, il y a effectivement une réalité qui est très, très convaincante. Si vous voulez mieux connaître la régie de quartier Blanc-Mesnil, c'est très simple. Il y a un site, hein, régie de quartier Blanc-Mesnil en un seul mot, .com pour l'adresse. Merci Patrick.
Merci à vous, merci beaucoup.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Les leviers pour sortir principalement les jeunes du département de l'Ornière ne manquent pas. Celui de l'association Miroir est très particulier puisque ce sont des professionnels du cinéma et du théâtre qui ont implanté depuis 2011 une école des métiers du spectacle et de l'audiovisuel dans un quartier prioritaire d'Épinay-sur-Seine. L'école Miroir est en effet un pari sur l'avenir des jeunes de quartiers populaires en France. Le quartier des Prêles, où se situe la maison du théâtre et de la danse, siège de l'école, est un des plus endommagés, dit-on, de France, avec 40% de chômage chez les moins de 25 ans. Ici, dans cette école, on propose gratuitement 18-26 ans, un cycle de formation de 3 ans qui touche les techniques dramatiques, le jeu d'acteur, les techniques d'improvisation, le doublage, la mise en scène. Allez voir le résultat, c'est écolemiroir.fr. C'est un esprit assez proche d'ailleurs de celui de la compagnie La Fontaine aux images de Clichy. Lisa Valverde, bonjour.
Oui, bonjour Philippe.
Lisa, je vais essayer de citer toutes vos compétences. Donc vous êtes metteuse en scène, de la compagnie La Fontaine aux images. Vous êtes directrice artistique aussi de cette Fontaine aux images à Clichy-sous-Bois. Vous êtes également marionnettiste ?
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous ne savez pas faire alors ?
Eh bien écoutez, je ne sais pas. J'ai surtout le temps qui me manque pour faire tout ce dont j'ai envie. Mmh. Je crois. Je fais beaucoup de choses mal, mais avec beaucoup de cœur.
Ouais. Donc la compagnie La Fontaine aux images est créée par votre papa André Valverde en 1990. Et vous vous dotez d'un chapiteau en 2004. C'est quoi la différence ? Un chapiteau, ça permet une ouverture à un plus large public ?
Alors, en effet, de 90 à 98, la compagnie allait de théâtre en théâtre et vagabondait ainsi de ville en ville. Et puis, nous avons posé nos valises à Clichy-sous-Bois lors d'une intervention au lycée Alfred Nobel. Et on s'est dit, bon, voilà, c'est le moment de s'ancrer sur un territoire qui nous a enchantés. On est installé quand même sur un stade de foot désaffecté. Et voilà, pour nous, c'était vraiment être au cœur des quartiers et dans une structure qui soit une forme empirique d'un lieu qui se construit avec les habitants.
Mmh. Et puis le chapiteau n'accueille pas que du théâtre par vocation.
Alors, le chapiteau et la Fontaine des Images, c'est d'abord une compagnie de théâtre qui mène ses créations théâtrales et qui s'est dit aussi, quitte à avoir pignon sur rue, autant mener une programmation et inviter des compagnies, mais aussi des groupes de musique à venir présenter leur travail et à venir le fabriquer également sous notre toile, puisque c'est un lieu de résidence une bonne partie de l'année.
Alors, le chapiteau, lieu de création de la compagnie La Fontaine aux Images, lieu d'accueil, de résidence, une trentaine de compagnies accueillies chaque année, une soixantaine de spectacles, et aussi un lieu d'engagement citoyen.
Oui, tout à fait. Alors, tous les ans, on a une création où on a une soixantaine d'amateurs qui montent sur les planches. On a aussi une chorale amateur et citoyenne qui s'appelle la chorale du Petit Ballon de Rouge. Donc ça, du côté Fontaine aux Images. Et de l'autre côté, sur le site, il y a également l'association 360 degrés sud qui s'occupe d'économie sociale et solidaire, qui propose, il y a une AMAP qui est gérée par les citoyens. Il y a un système d'échange local avec une monnaie alternative qui s'appelle le Clibok. Il y a évidemment tout un panel d'activités et d'ateliers autour de la réparation de vélos, de la permaculture. Voilà, et ça donne un lieu étonnant où les amapiens vont au théâtre, les théâtreux vont faire de la permaculture juste après. Voilà, et ça circule, ça tourne. Voilà.
Avec deux rendez-vous à venir, le 25 mai, là. La fanforale du Douzbékistan. J'ai bien dit Douzbékistan. Donc c'est dans le.
Alors oui.
C'est dans quoi? C'est le 12e arrondissement? Non, c'est pas ça, le Douzbékistan.
C'est entre La Chapelle et Stalingrad. Hein, ils viennent de là. Ouais. Le 12, c'est le numéro de la rue.
D'accord.
Et la fanforale, c'est une contraction de fanfare et de chorale, puisqu'il s'agit de 30 chanteurs et musiciens qui proposent un répertoire aux accents balkaniques et très, très festif. Donc ça, c'est le 25 mai et on va danser assurément. Et puis, on a ensuite le 22 et le 23 juin le Festival de théâtre amateur. Donc là, on a 11 compagnies qui vont venir présenter leur spectacle. Donc là, ça concerne les villes du 93, mais même quelques arrondissements de Paris, ce festival. Et enfin, à ne pas manquer, le rendez-vous de la clôture de saison, donc qui prend la forme d'un petit festival. Donc ça sera le 30 juin, et là, on reçoit le bal Zigan de Marcella. Et on continue toute la nuit avec le DJ Raki qui va nous emmener jusqu'à l'aube sur des sons tout aussi balkaniques que la fanforale. Donc voilà, ça c'est notre festival de clôture. L'été, il y a des résidences, donc les compagnies qui souhaitent préparer et fabriquer leur spectacle peuvent le faire l'été, rester une semaine, deux semaines, un mois, pourquoi pas. Et puis on réouvre à fin septembre. Voilà.
Formidable. Vous allez trouver, chers amis, les liens avec La Fontaine aux Images, site internet, page Facebook, ainsi qu'avec 360 degrés sud créé par Lisa, un opage d'émission. Merci Lisa.
Mais merci beaucoup.
La semaine prochaine, nous serons dans le Haut-Rhin et puis début juin, les Vosges, la Moselle et enfin le Morbihan. Merci pour vos courriers, Nicolas.